Bonjour, Église de Cré. Donc, si j'ai bien compris, c'est un invité de passage que je suis là ce matin. Donc, merci pour votre accueil. Ça me fait plaisir de vous revoir tous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Jean-Lionel Perrault. Voilà, peut-être que certains reconnaissent un peu mon accent franc-comtois. Je suis en fait suisse d'origine. Jurassien du canton du Jura. Et puis, après 21 années passées dans mon pays de Suisse, je suis parti à Nogent-sur-Marne, où j'ai rencontré mon épouse, entre autres la théologie que j'y ai faite. Et j'ai donc passé maintenant 50 ans en France, pays que j'ai adopté et dans lequel j'ai servi. Et puis, avec mon épouse, nous sommes à la retraite, à Die, ce beau pays du Glandas et du Vercors. Voilà, j'aimerais, pour introduire notre message ce matin, vous lire quelques textes prolongés, donc ceux qui nous ont déjà été apportés ce matin. Un premier texte, dans le prophète Zacharie, au chapitre 8, les versets 16 à 17. Je mentionne juste que ces versets arrivent dans un moment où Zacharie a été amené à prophétiser des châtiments envers le peuple d'Israël parce que celui-ci s'était détourné de Dieu. Mais il y a une éclaircie qui vient de la part du prophète et qui parle au nom de l'Éternel. Et il dit ceci: voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux, une justice qui engendre la paix. Ne tramez pas du mal l'un contre l'autre dans votre cœur, ayez en horreur les faux serments, car toutes ces choses je les déteste, l'Éternel le déclare. Un peu plus loin, la fin du verset 19, je dis le verset 19, voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, les jeûnes du quatrième, du cinquième, du septième et du dixième mois seront changés pour le peuple de Juda en jour de réjouissance, en jour d'allégresse et de joyeuses fêtes. Mais soyez épris de vérité et de paix. Et puis dans le même chapitre, encore les versets 21 et 22, les habitants d'une ville iront dans une autre et s'inviteront en disant « Allons, mettons-nous en route pour implorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour rechercher sa présence. » Et on leur répondra « Oui, moi aussi je veux y aller. » Ainsi, des peuples nombreux et des nations puissantes viendront rechercher la présence du Seigneur des armées célestes à Jérusalem et à l'implorer. Je lis maintenant un texte dans l'Évangile de Jean, tellement bien connu de vous. Jean 14, les versets 4 à 6. Mais « vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?»« Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et les versets 15 à 17. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Juste un petit texte dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 25. C'est une parole que Paul reprend du texte que nous avons lu de Zacharie. C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Et puis le texte que nous allons méditer ce matin, quelque peu, c'est dans la troisième épître de Jean. Alors je vais surtout méditer les versets 1 à 8. Nous pourrions prendre toute l'épître parce qu'elle n'est pas longue, mais je m'arrêterai aux versets 1 à 8. L'ancien à mon bien cher Gaius que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. Je mentionne ici juste que d'autres versions parlent plutôt de marche dans la vérité. Par exemple, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Cela correspond d'ailleurs plus au terme grec. Cher ami, tu agis avec fidélité dans tout ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois, à la suite de leur voyage, d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer le Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'aider de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. Alors, si je vous pose la question, quel est le mot qui revient le plus souvent dans tous les textes que j'ai lus? Ben, il y a l'unanimité, hein, là. Avouez que la question n'était pas trop compliquée. Alors, dans mon message, je ne répondrai pas nécessairement à la question « qu'est-ce que la vérité ?» mais j'essaierai de donner quelques exemples de la manière à ce que je la comprends, je peux la vivre, et de la manière aussi dont je la partage avec des amis. Cette troisième lettre de Jean est donc écrite par Jean, l'apôtre, celui qui a écrit cinq textes qui nous sont conservés dans notre Nouveau Testament. Son évangile, sa révélation, l'Apocalypse et ses trois épîtres. Il se nomme comme étant l'ancien. On peut s'imaginer donc que c'est vraiment un chrétien qui a déjà une longue expérience derrière lui. C'est un homme éprouvé. C'est un homme qui a marché avec le Seigneur tout au long de sa vie. Mais cet ancien, il a à cœur de parler de frère à frère avec les amis à qui il s'adresse. Et là, il s'agit d'un ami, d'un très cher ami, comme il le dit, qui s'appelle Gaius et dont nous ne savons rien d'autre dans l'Évangile que ce que nous lisons dans cet épître. Il y a un lien d'amour qui existe entre Jean et ce frère Gaius. La vérité les unit. C'est leur foi commune en Jésus. le souhait de Jean pour son ami Gaius, dans un premier temps, est triple. Il y a un souhait de prospérité, un souhait aussi de bonne santé physique, mais aussi, couplé à cela, un souhait de bonne santé spirituelle. Jean veut souhaiter à son ami Gaius que son âme aussi aille bien. Alors, j'ai une question à vous poser. De quelle manière voyez-vous la vie? De quelle manière vivons-nous notre vie? J'ai ces trois souhaits qui fonctionnent ensemble, ce que Jean nous adresse par le biais de Gaius. Ces trois souhaits sont associés. Et Jésus est à la charnière de tout ce que Gaius va vivre, et Jésus est à la charnière de tout ce que nous allons vivre. Quel est notre regard face à cette réalité? Il est important, c'est vrai, d'avoir une vision juste, parfois réorientée. Jean, l'ancien, qui parle à son ami et qui souhaite pour lui la bénédiction liée à sa relation à Jésus. N'oublions pas de dire que Jean était un disciple de Jésus qui en a vu de toutes les couleurs, pourrions-nous dire. Il n'a pas toujours eu une vie paisible, tranquille. D'ailleurs, dans la fin de sa vie, il a été déporté et c'est là qu'il a écrit l'Apocalypse. Néanmoins, Jean, l'ancien, dans ce premier temps, transmet le message à Gaius que son souhait pour lui, c'est que sa vie soit belle, c'est que sa vie soit épanouie, c'est qu'il puisse vivre en harmonie de plusieurs manières, que sa vie puisse se développer, qu'il puisse connaître des joies, peut-être de par son développement professionnel, de par sa santé physique et de par son âme qui est là. De quelle manière l'Évangile s'incarne-t-il dans notre vie? C'est là une question que nous nous sommes posées durant cette semaine avec des amis justement de Nogentais qui se revoient chaque année. Et nous étions dans le Périgord, et donc nous avons un tout petit peu réfléchi à cette question, de quelle manière l'Évangile s'incarne-t-il dans notre vie. Nous étions 9 familles qui se retrouvaient, et donc ça fait longtemps, comme je vous l'ai dit, que nous avons fait nos études à l'Institut biblique de Nogent. Nous avons passé 3 jours ensemble, nous étions heureux de nous revoir. Nous étions heureux de partager de bons moments. Nous nous sommes retrouvés autour de repas. Nous avons fait des balagnes dans cette belle région de la Dordogne. Nous avons visité des sites archéologiques, des villes historiques. Nous avons vu des châteaux. Nous nous sommes promenés sur la Dordogne. Nous n'avons pas nécessairement lu et médité la parole tous les jours, tous les 3 jours que nous nous retrouvions. Mais la veille de partir, nous avons partagé des joies, des peines. Nous avons ouvert notre cœur, dit nos sujets de préoccupation, et donc nous avons partagé aussi nos sujets de prière. Une amie qui a épousé un pasteur a perdu son mari alors qu'il avait à peine 65 ans. Cette amie était bien sûr encore attristée par ce départ. Elle était peinée, même si ça s'est passé il y a 3 ans maintenant. Cette amie était encore en peine. Mais cette amie a pu aussi témoigner qu'elle avait du plaisir d'être avec nous, de partager ces moments. Cette amie nous a aussi témoigné qu'elle avait du plaisir à rencontrer sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Elle a aussi témoigner de son plaisir d'aider par des camps qu'elle fait à la cuisine. Nous avons prié pour cet ami. Nous avons demandé à Dieu qu'il l'encourage dans son veuvage, dans sa solitude. Un autre a témoigné qu'il peine à se retirer, parce qu'il a été dans un ministère pastoral pendant plus de 30 ans. Et le temps de sa retraite est venu, et il nous disait ne pas savoir trop comment s'arrêter. Comment dire « halte maintenant, j'ai servi un moment, et il est temps peut-être que j'arrête ». Il répond à des sollicitations encore. Il nous a dit qu'il était un dépanneur pour ceux qui lui demandent des interventions. Un autre encore nous a témoigné qu'il avait des portes ouvertes pour apporter l'Évangile, notamment au travers de la radio, par des émissions télévisées. Un autre encore a témoigné qu'il ressentait dans sa vie des fragilités, peut-être comme jamais auparavant, alors que cela fait plus de 50 ans qu'il connaît et qu'il sert le Seigneur. De quelle manière l'Évangile s'incarne-t-il dans notre vie? Eh bien, la conclusion de celui qui était notre modérateur, c'est qu'on est en train de regarder dans chacune de nos vies comment le Seigneur se manifeste, comment il agit, comment il travaille au-dedans de nous et au travers de nous. Comment s'incarne l'Évangile dans notre vie quotidienne? C'est ce qui fait la joie de Jean quand ses frères sont venus de chez Gaius et qu'ils ont transmis le message de la manière dont l'Évangile s'incarnait dans sa vie quotidienne. Gaius demeure attaché au Seigneur, à sa parole. Il vit une vie en harmonie avec lui. Il a une marche quotidienne en adéquation entre le dépôt qu'il habite et la vie qu'il mène. Une deuxième question pour la suite de ce passage. De quelle manière notre vie est incarnée par l'Évangile, mais comment aussi se traduit-elle concrètement dans notre vie? Jean en formule une en s'adressant à Gaïs. Il constate d'abord une chose qui est le signe que l'Évangile s'incarne concrètement dans la vie chrétienne. Il agit avec fidélité, par l'accueil qu'il fait auprès des frères et même des frères étrangers qui visitent l'Église. Fort de ce constat, Jean en profite pour encourager Gaïus à pourvoir aux besoins de ses frères pour le ministère qu'ils accomplissent dans l'annonce de la parole. Un exemple concret de la manière d'accueillir, d'exercer l'hospitalité dans l'Église. De quoi est-il question ici? Tu te montres fidèle dans tout ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Une autre version pourrait être traduite ainsi: tu agis selon ta foi dans les soins que tu prends pour les frères, cela même pour des frères étrangers. Jean a donc entendu de ce cher frère Gaïus que son amour pour Dieu se traduit par son amour pour des frères qui ne sont pas de son Église. Jean a entendu de ce frère Gaïus que Gaïus les accueille comme des frères et qu'il leur offre son hospitalité. Je vois bien Gaïus recevoir ses gens à sa table, ses frères qui sont venus d'ailleurs. Je vois bien ses frères en train de partager leurs différentes expériences concernant les progrès de l'Évangile, la proclamation de la vérité, les effets d'une vie marquée par la présence de Christ en eux. Entre eux, ils ne font que partager leur manière très pratique d'incarner l'Évangile. Jean en profite pour inviter son cher ami Gaïus à ne pas en rester là, mais à y ajouter une touche de générosité pour ceux qui partent annoncer l'Évangile ailleurs que dans son petit cocon évangélique. J'aimerais bien ici parler davantage d'un sujet qui m'a été particulièrement à cœur tout au long de mon engagement ecclésial, à savoir tout ce que renferme ce petit mot d'accueil dans son sens large. Alors pour terminer, juste un petit témoignage. Dans la même semaine où nous étions dans le Massif central, nous avons terminé notre séjour chez un très cher ami, celui qui nous a accueillis dans notre église de Vendeuvre il y a plus de 30 ans. Et cet ami a été pour moi une vraie source d'inspiration dans les multiples sens que peut prendre l'accueil dans le cadre de l'église. Cet ami, c'était quelqu'un qui avait mis en place une équipe d'accueil dans l'église. Il se trouvait à l'entrée de l'église et il souhaitait la bienvenue à chaque personne qui entre. C'est quelqu'un qui avait une notion très large de l'accueil. L'accueil n'était pas réservé qu'à quelques personnes de l'église, mais qui devait être vécu, enseigné et pratiqué par chaque membre de l'église. C'était aussi quelqu'un qui invitait à sa table les personnes nouvelles venues dans l'église, du moins ceux qui voulaient bien répondre à son invitation. À ce titre-là, il a été le premier à nous inviter à sa table. C'était aussi quelqu'un qui était très sensible à faire passer ce message à l'église. Connaissez-vous l'impact que peut avoir les 5 premières minutes après l'amen final? Alors, je vous laisse répondre à cette question. Eh bien, je pense que dans tout le contexte que nous venons un peu d'évoquer, que ce soit par le souhait de cette vie de prospérité, de bonne santé, aussi bien physique que spirituelle, aussi bien aussi dans ce désir de marcher dans la vérité que dans celui de servir dans le cadre de l'Église, eh bien, nous voyons cette action de Dieu qui s'incarne dans notre vie. Le dernier terme de Jean à Gaïus, qu'il nous mentionne au verset 8, c'est celui-ci: c'est donc notre devoir d'aider de tels hommes, ainsi nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. Ce terme de collaborateur exprime ce que nous faisons, nous pouvons faire ensemble dans la participation à notre foi pratique. Et puis, nous pourrions aussi utiliser le mot de coopérateur, c'est-à-dire ce que nous partageons ensemble, concrètement, de la vérité. Alors, Église de Cré, j'allais dire, détends-toi parce que j'ai vu que tu savais accueillir, que tu savais aimer, que tu savais t'ouvrir aussi aux uns et aux autres. Et je vous encourage à poursuivre dans cette voie et à même l'amplifier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.